salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule audio Star Trek. Pourquoi c'est génial, c'est à vous de nous le dire. Star Trek pour les nuls @gmail.com. Aujourd'hui, c'est Thierry, notre Klingon national, international, qui nous raconte pourquoi il pense que Star Trek c'est génial. À bientôt.
Alors, pourquoi Star Trek c'est génial? Pour moi, la première qualité de Star Trek, c'est la richesse et la cohérence de son univers. C'est-à-dire que, en tout cas, tout ce qui est sorti entre 1964 et 2006, c'est plus de 700 épisodes de série, c'est 10 films, et tout est extrêmement cohérent. Il y a très peu de... Je dis pas qu'il y en a pas, mais il y a, parce qu'en cherchant bien, on en trouve toujours, mais comparativement à d'autres œuvres de fiction... Il y a très peu d'incohérences, c'est assez impressionnant. Mais c'est surtout la richesse de l'univers. En fait, le fait qu'il soit cohérent, ça le rend crédible, ça donne l'impression qu'on pourrait y vivre, ça permet de s'y immerger plus en profondeur. Voilà, donc c'est un univers très très riche. Il y a des centaines d'espèces extraterrestres qui sont représentées à l'écran. Il y en a près d'une dizaine qui sont très bien développées, plus quelques-unes qui sont développées encore plus loin, on connaît abondamment leur culture, leur tradition, etc. On connaît le détail du fonctionnement de la technologie, dans une certaine mesure. Technologie qui est aussi très cohérente en tant que science fictive, c'est-à-dire que, j'ai eu l'occasion d'en parler, c'est-à-dire que même ce qui est inventé, ça reste respecté d'épisode en épisode. Les mêmes technologies fictives ont les mêmes effets, elles ont les mêmes contraintes, etc. Donc il y a un énorme travail de détail. En fait, c'est ça qui est ce côté détaillé que je trouve fascinant. Mais bon, des univers vastes et détaillés, il y en a plein. Star Trek, ça cumule cette qualité avec une autre qualité essentielle, c'est la réflexion, la philosophie. Alors souvent, on parle de ça, on dit « Ah, c'est philosophique, c'est un peu vague, on sait pas trop de quoi on parle. » Et la philosophie, c'est de se poser des questions. Dans les fondements même de l'univers, il y a des choses qui narrativement vont faciliter la mise en place de questionnements philosophiques, notamment par des dilemmes moraux. Il y a la fameuse directive première de Starfleet qui sert justement à beaucoup à ça. Alors c'est une blague chez certains fans de Star Trek de dire ouais mais la directive première c'est juste là pour être contournée machin. C'est pas la question de savoir s'il la respecte vraiment ou pas. En fait, il la respecte la plupart du temps. Si on lit Le Droit, selon Star Trek, de Fabrice Desferrer, qui est un livre extrêmement passionnant sur Star Trek, parce que même au niveau de juridique, c'est une série qui est cohérente. Un ensemble de séries qui est cohérent, plutôt. Petit aparté, la seule lapsus, c'est vraiment révélateur de ce que je disais dans l'émission, dans mon interview. C'est vraiment, je vois Star Trek comme une seule grosse série. Du moins, la partie Star Trek qui a été diffusée des années 60 à 2005. Qu'est-ce que je disais? Oui, la directrice première. L'important, c'est surtout le fait qu'il y ait débat. Qu'il y ait un débat contradictoire, il y a une thèse et une antithèse, chacune présentée par un personnage. Et c'est là que la réflexion philosophique est posée. D'ailleurs, souvent, l'épisode s'arrange pour qu'il n'y ait pas vraiment de choses qui permettent de dire telle personne avait raison, non, telle personne avait raison finalement. On sait juste ce qu'ils ont fait, mais on ne sait pas forcément si c'était la bonne solution. D'ailleurs, les épisodes que je préfère, c'est souvent ceux où justement il n'y avait pas de bonne solution, et que quel que soit le choix qu'auraient pu faire les personnages, c'était un mauvais choix. Et il y a ce souci de poser des réflexions, de permettre, j'irai pas jusque là, parce qu'on peut regarder Star Trek sans réfléchir, ça marche aussi, mais de donner l'occasion au spectateur de réfléchir à ce qu'il ou elle est en train de voir. Et ça, il y a très peu de séries qui peuvent se targuer de permettre ça. Voilà, c'est là pour moi le côté philosophique de Star Trek. Après, il y a Utopie de la Fédération, etc. Pour moi, ça c'est pas de la philosophie, ça c'est des postures politiques, qui est autre chose. Ça aussi, c'est intéressant, hein. Star Trek, politiquement, il y a plein de choses à en dire. Même si, comme la série s'avance pas trop dans les détails du fonctionnement politique de la Fédération, ça a des limites de le creuser. Mais voilà, il y a cette idée voilà, de la fédération qui est une entité utopique où il n'y a plus d'argent, où les gens se respectent les uns les autres, quelles que soient leurs origines, etc. Voilà, ça c'est d'ailleurs c'est un peu le troisième aspect qui fait la grande qualité de Star Trek, c'est justement cette posture politique qui est très différente. Ça donne vraiment un côté dépaysant ce monde-là, quand on vit dans un monde capitaliste comme le nôtre où l'argent a autant d'importance, imaginez un monde sans argent, c'est particulier. Après, ça rejoint évidemment, c'est pas si novateur que ça, parce que ça rejoint tout un tas d'utopies, comme le pays de Cocagne, des choses comme ça, c'est des idées qui sont assez anciennes, les utopies de l'abondance. Là, on remplace les arbres poussent du jambon par des synthétiseurs qui permettent de faire tout ce qu'on veut. Des choses complètement folles comme ça au niveau technologique. Il y a une espèce d'abondance énergétique qui n'est pas vraiment expliqué, enfin si c'est la réaction matière-antimatière, si on se base sur le fonctionnement des vaisseaux, mais c'est pas expliqué en détail, en tout cas d'où vient toute cette énergie qui permet de faire tout ça, parce que c'est bien beau de pouvoir créer de la matière à partir d'énergie, mais il faut avoir l'énergie à la base. Mais voilà, bon, c'est pas si important que ça, parce que l'important c'est surtout le côté des paysans, de voir un univers différent, ou même les codes sociaux sont différents, particulièrement dans les séries qui se passent au 24e siècle. Il y a un truc qui, après avoir vu Star Trek de manière intensive, c'est-à-dire sans vraiment regarder autre chose à côté, quand j'ai regardé d'autres films ou d'autres séries, c'est un truc qui m'a marqué, qui m'énervait au début, c'est les gens se parlent pas. Dans Star Trek, les gens se parlent. Ils arrivent à résoudre leurs conflits parce qu'ils vont se parler, en fait, tout simplement. Ils vont dire, voilà, il y a l'air d'y avoir ce problème, qu'est-ce qu'on fait? Et ils essayent de résoudre ça, de trouver des compromis, etc. Et la solution vient du dialogue. Mais même pas forcément que dans les conflits interpersonnels. Une des séquences que je préfère, qui revient régulièrement, c'est les briefing rooms. Dans toutes les séries Star Trek, en tout cas celles qui sont sorties, les six premières on va dire, il y a toujours à un moment donné, enfin c'est toujours, et très très souvent, une scène où de réunion, en fait, ça s'appelle des briefings, mais c'est pas vraiment des briefings, c'est des réunions, il y a quelqu'un qui présente la problématique qu'ils vont affronter, et là, différentes personnes donnent leur avis, et après, y a un échange d'idées. Il y en a qui sont pas d'accord, qui vont dire pourquoi ils sont pas d'accord. Il y en a qui vont proposer des solutions alternatives. Et de ce débat constructif, parce qu'il y a vraiment un objectif derrière qui est clair et défini, va sortir la solution qui va être utilisée. Et ça, c'est extrêmement rafraîchissant, en fait. Quand on voit d'autres séries, on voit les personnages. Il y en a un qui a une information, il y en a un autre qui a une autre information. Et s'ils se parlaient, ils résoudraient le problème. Mais ils se parlent pas, donc le problème continue, ce qui permet de faire durer l'intrigue, mais et qui est du coup très frustrant quand on fait attention à ce genre de détails. Et dans Star Trek, justement, il n'y a pas ce problème, en tout cas très rarement. Et c'est super rafraîchissant. Quand vous revenez d'une réunion du boulot, qui a été complètement improductive parce qu'il n'y avait pas vraiment d'ordre du jour et que c'était complètement, ça partait dans tous les sens et que ça menait à pas à grand chose, et que vous regardez Star Trek et que vous les mettez dans une briefing room, vous vous dites pas, oh non, encore une réunion, non. Là, vous avez, là, ah bah là, on se dit, ah bah ouais, c'est bien, oh, si ça pouvait se passer comme ça, ah, ça fait du bien, c'est rafraîchissant, ça s'enlève un poids presque, tellement de voir des gens communiquer sainement et efficacement. Et ça, c'est, voilà, ça, c'est aussi un truc qui fait que Star Trek, c'est génial. Une autre caractéristique qui fait que Star Trek est génial selon moi, même si tout le monde sera pas d'accord pour dire que c'est une qualité, c'est l'aspect extrêmement littéraire de Star Trek. Alors littéraire à plusieurs niveaux, mais globalement dans l'écriture, même dans la dramaturgie, il y a un côté voilà, très littéraire dans Star Trek. C'est Jo Trimble l'explique très bien dans les interviews où elle en parle. Alors Jo Trimble, c'est la femme qui est à l'origine de la campagne Save Star Trek et qui a permis d'obtenir une troisième saison à la série originale alors qu'elle devait être annulée après la deuxième saison. Donc elle, quand elle parle de Star Trek et de son rapport à la science-fiction, elle explique que quand elle a vu la série originale à la télévision, les concepts de science-fiction qui étaient montrées n'étaient pas nouveaux. C'est-à-dire qu'elle, elle les avait déjà lues dans des nouvelles de science-fiction. Elle était très impliquée dans le, bah, dans le. On peut pas parler de fandom mais, à cette époque-là, mais voilà, dans les cercles, on va dire, d'auteurs de science-fiction, etc. Et ce qu'elle explique, c'est que même s'il y avait fondamentalement rien de nouveau dans ce que montrait Star Trek, c'était justement elle, ce qui lui a plu, ce qui lui a énormément plu dans Star Trek, c'était que justement ça vulgarisait ces concepts de SF qui étaient réservés à un public d'initiés qui suivait les magazines littéraires de science-fiction, etc. Et ça permettrait de montrer ça à un public plus large. Et c'est ce qui lui a plu, c'est la première fois qu'elle voyait ce genre de choses à la télévision. Et ça, c'est pas un hasard. Tout ça, c'est dû à la manière même dont la série originale a été conçue. C'est-à-dire que c'était des auteurs de l'âge d'or de la science-fiction qui venaient adapter leurs nouvelles, leurs idées, dans Star Trek. Qu'ils étaient co-scénaristes d'épisodes, etc. Il y en a eu plein des auteurs de la série originale de Star Trek qui étaient des scénaristes, je veux dire, des co-scénaristes qui étaient des auteurs de science-fiction au départ. Ce qui explique ce côté très ancré dans la littérature qu'a Star Trek. Et ça se retrouve dans la construction des scénarios, ce rapport au littéraire. Et ça, c'est une continuité qui va aller jusqu'à Enterprise. On va toujours avoir voilà, ce côté-là très littéraire. Alors, dans la construction, d'un point de vue narratologique, mais... pas seulement, parce qu'il y a énormément de références à la littérature dans Star Trek. On parle de Mark Twain, d'Arthur Conan Doyle. J'ai pas cité tous les auteurs qui sont cités dans Star Trek, mais il y en a un bon paquet et qui sont assez mis en avant, qui reviennent régulièrement, etc. Donc il y a vraiment un rapport de Star Trek à la littérature qui est à la fois dans sa construction et dans ses thèmes abordés. Et ça, moi qui aime beaucoup la littérature populaire, en tout cas, c'est quelque chose que je trouve touchant, qui me plaît énormément. Vous pouvez prendre n'importe quel scénario de n'importe quel épisode de Star Trek, des 6 premières séries, à part peut-être un ou deux épisodes, vous pouvez lire le scénario, vous allez vous amuser juste en lisant le scénario, pas besoin de voir l'épisode. Il n'y a pas besoin de... C'est pour ça que la série originale, par exemple, qui a énormément vieilli au niveau des effets spéciaux, même malgré les remasterisations, il y a un moment donné où le style de réalisation des années 60 ne fonctionne plus aujourd'hui. Et ben, s'il y a encore des fans de cette série, même des gens qui découvrent maintenant et qui deviennent fans de cette série, c'est, je pense, notamment grâce à ce côté très littéraire qui fait qu'on peut s'abstraire de la manière dont les choses sont représentées à l'écran pour se concentrer sur l'histoire qui est racontée. Et dans l'histoire, il y a toujours quelque chose à en retirer. Voilà, je sais pas si j'ai fait le tour, mais c'est ce qui me vient sur le moment. J'ai rien préparé, j'ai rien écrit, hein, je voulais que ce soit spontané. Donc voilà.